Bonjour à tous, nous sommes des étudiants du Master en médiation en environnement et communication scientifique de l'Université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission dédiée à l'alimentation, à la revégétalisation de nos villes et à la réappropriation des terrains urbains. Ces activités rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Nous vous proposons aussi une exploration des nouveaux territoires culinaires qui s'intègrent dans cette transition alimentaire et le développement durable de nos villes.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. »
Alors je viens de la Vienne, à côté de Poitiers, un petit village qui s'appelle Saint-Savin. Donc aujourd'hui, je suis architecte paysagiste et j'essaye de travailler autour de l'agroécologie urbaine de manière générale en ville.
Est-ce que tu peux revenir sur les objectifs de départ qui étaient les tiens ?
Alors les objectifs de départ, je suis sorti en 2012. 2013, c'était la capitale européenne de la culture. L'objectif, c'était de mettre un lieu en friche, un délaissé urbain, en culture autour de choses qui m'étaient assez propres. L'IUT Génie Biologique, j'ai beaucoup travaillé sur la question des déchets. Et donc, pour le coup, je voulais fabriquer de la terre fertile via les déchets urbains, les biodéchets urbains. Donc, l'objectif, il était triple, on va dire. Le premier, comme je vous ai dit, mettre un délaissé en culture, avoir une réponse alternative à la capitale européenne de la culture, parce qu'il y avait l'objectif de mettre Marseille en culture. Et comme à chaque fois, on me mettait comme frein le manque d'argent, le manque de moyens, le manque humain, j'ai décidé de lancer ce jardin avec zéro argent, avec très peu de personnes, en l'occurrence moi et de temps en temps quelques personnes qui venaient graviter autour de moi. Et en termes de moyens, de matière, via les biodéchets, récupérer quelque chose sous forme de gratuité, sous forme de dons pour fabriquer cette terre.
Oui, alors justement, est-ce qu'on peut aborder les démarches que tu as mises en place pour créer ton jardin, justement ?
Alors, au début, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à expérimenter chez moi, dans mon immeuble et sur ma terrasse. Et très rapidement, il me fallait un lieu un peu plus grand. Et en fait, par la fenêtre, je voyais un lieu qui était délaissé. Je suis allé voir les propriétaires privés qui sont l'œuvre de jeunesse Jean-Joseph Allemand. Et donc, je leur ai proposé ce projet de création d'un jardin autour du partage et autour de la valorisation de biodéchets pour fabriquer cette terre si précieuse pour moi et encore plus en ville. Ils m'ont laissé pendant une semaine sans réponse et au bout d'une semaine, la question était réglée, l'autorisation avait été donnée. En interne, on a pu lancer à partir de ce moment-là, avril 2013, toute cette épopée, cette vie autour de ce jardin expérimental.
Et tu as pris le parti de prendre la ville comme atout dans justement la création de ce jardin, en récupérant les déchets.
Ouais, surtout que Marseille avait quand même un triste passé autour des déchets. J'avais quelques copains en plus travaillant à Veolia sur la question des décharges ou des centres de tri, mais bon, des décharges. Il y avait eu un gros problème en 2010 où la ville avait été sanctionnée. Donc pour le coup, et puis en plus, c'est une ville qui est relativement mal gérée autour de la question des déchets. Enfin, c'est compliqué les déchets, mais à Marseille, ils sont encore plus compliqués qu'ailleurs. Donc pour moi, ce parti pris, il était très simple. C'était comme il y avait cette mauvaise image des déchets et cette problématique déchets dans cette ville, c'était de surfer sur cette opportunité pour fabriquer quelque chose de plus noble. Voilà.
Et à l'époque, donc là, c'était l'entrée déchets, mais l'entrée agriculture urbaine, ça se passait comment à l'époque ?
Alors l'entrée agriculture urbaine, pour moi je ne l'ai jamais dissociée, parce que dans mes travaux de recherche quand j'étais étudiant et d'explorateur du génie végétal ou du génie du sol, on va dire, la culture et l'alimentaire n'étaient pas incompatibles à la gestion de biodéchets et à la fabrication de terres. Donc pour le coup, le parti pris de cette première année, c'était très rapidement de se rapprocher de plein de commerçants et d'artisans dans le quartier, qui génèrent, eux, des grosses quantités de biodéchets, et de pouvoir aller les chercher et les valoriser directement sur place, dans le jardin Savournin, sous forme de lasagne, pour que ces bacs de récupération de biodéchets puissent être utilisés tout de suite en bacs de plantation de plantes alimentaires. Donc, grosso modo, la famille des cucurbitacées, des solanacées. Donc, toutes les plantes, enfin, tous les légumes de la ratatouille, pour faire très simple.
Nous venons d'écouter Thomas Martin, qui est un artiste, architecte et paysagiste. Il se surnomme un articulteur ou bien un archiculteur. Il a obtenu un DUT comme technicien supérieur de l'environnement en 2006, puis il est rentré aux écoles supérieures d'architecture du paysage à Antibes et par la suite, il a obtenu un diplôme de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles en thème méditerranéen en 2012. Il travaille avec la permaculture dite en lasagne, tout en fabriquant la terre avec les biodéchets qu'il récupère dans les commerces qui se trouvent autour de son jardin.
Ce témoignage est bien à l'image de l'agriculture urbaine d'aujourd'hui, des initiatives individuelles et expérimentales de gens passionnés et engagés dans la reconquête de notre alimentation et du lien social en milieu urbain.
Alimentation locale, écologie, innovation, lien social, ces termes je les ai entendus en me rendant au Salon de l'agriculture. Et cette année, c'est l'agriculture urbaine qui était mise à l'honneur. Un bon moyen de faire connaître ce concept récent au grand public. Après avoir parcouru les stands, j'ai constaté que la communauté des végétaliseurs de la ville était déjà bien développée. Comment expliquer cet essor et quel avenir pour ce véritable enjeu des villes d'aujourd'hui et de demain ? Écoutez les témoignages de trois exposants acteurs de l'agriculture urbaine.
Donc je vais vous demander d'abord d'expliquer un petit peu votre projet d'agriculture urbaine sur Paris.
Voilà, alors nous, je travaille dans une bibliothèque du 15e arrondissement qui a un petit jardin à l'intérieur qui n'est pas accessible au public, mais dans lequel on a construit un jardin pédagogique pour les enfants des écoles et puis un jardin en potager sur pied pour les personnes non-voyantes qui fréquentent notre bibliothèque avec à l'intérieur des plantes reconnaissables par le goût et le toucher. Mais en tout cas, ce que nous mettons en place, c'est le côté pédagogique du jardin. Voilà. Pour moi, c'est super important pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Il y a aussi le côté que jardiner, c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Ça détend, ça nous renoue à des tas de choses. On l'a vu avec notre jardin d'essence, donc des plantes à toucher, comment les gens, ils étaient contents, non seulement les personnes non-voyantes, mais les autres aussi, de s'apercevoir qu'ils pouvaient reconnaître de la lavande, du thym, du romarin. Il faut que les gens s'engagent et s'investissent. C'est tout, c'est là l'enjeu. C'est s'il y a quelqu'un pour le faire, on peut le faire et on y arrive. J'en suis tout à fait consciente. C'est pour ça que le côté pédagogique qu'on développe dans les bibliothèques, puisque dans les bibliothèques, on l'associe aux livres, etc., au savoir, à la culture, à tout ce qu'on peut apprendre, c'est ça qui est important. C'est que les gens, ils s'investissent et ils le fassent. Il est vrai que les bibliothèques, c'est des établissements ouverts à tous, gratuitement, librement. Donc, c'est déjà un côté accessible. Mais ce qui est, à mon avis, parlant pour les gens, c'est le permis de végétaliser qu'accorde la ville de Paris, mais je pense d'autres villes aussi. On a le droit, si on le demande, de végétaliser l'espace public, notamment les pieds d'arbres ou des petits coins de trottoir. Et ça se voit. Donc je pense que c'est ça qui peut engager les gens. Puis pour le coup, c'est sur l'espace public, tout le monde le voit, il n'y a aucune barrière, on va dire.
Donc vous pensez que ça peut changer un petit peu la vision de certains sur l'agriculture en général en France ?
À mon avis, c'est quand même une partie de l'agriculture qui est très très particulière. Mais ça permet de réfléchir.
Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des opposants à ce genre d'innovation?
Parce qu'il y a toujours des gens pour lesquels un trottoir, ça doit être propre. Et un trottoir propre, c'est un trottoir sans rien du tout. Donc, sans les petites plantes sauvages qui finalement arrivent à se développer, que pour ma part, je trouve importantes, elles accueillent des insectes pollinisateurs, elles accueillent de la biodiversité. Mais avec rien du tout, un petit espace minuscule dans lequel une plante s'accroche, elle est importante pour la biodiversité parce qu'elle fait sa petite goutte d'eau. C'est un mini-oasis. Mais il y a toujours des personnes qui sont opposées à cela, qui s'accrochent sur le fait que tout bétonné, c'est bien mieux, tout lisse, etc. Et qui trouvent que ça n'a pas sa place ici. Il y a aussi quelques personnes qui disent qu'en ville, ce n'est pas propre, mais on sait très bien que la campagne, et notamment avec tous les pesticides et tout, ce n'est pas tellement propre, que la pollution, elle est partout. Il faut réfléchir à la question.
Et je suis actuellement à la ferme urbaine de Saint-Denis en charge du développement de la ferme pédagogique. Alors, on a récupéré une ferme de 2,5 hectares à Saint-Denis, accessible en métro, et sur laquelle on va développer deux volets, sur 1,5 hectare une activité de production de fruits et légumes et sur 1 hectare une ferme pédagogique.
En général, mais qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture urbaine? Est-ce que vous pensez que c'est durable?
Alors, ça ne remplacera jamais l'agriculture conventionnelle. Ça peut se substituer un peu à l'agriculture conventionnelle, mais à petite dose et pour des produits assez spécifiques. On ne produira jamais des pommes de terre en agriculture urbaine, c'est pas possible. Voilà.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à ce genre d'innovation en ville?
Un hectare de terre dans la Beauce, ça coûte pas le même prix que 1000 mètres carrés à Paris. Donc le problème numéro un, c'est surtout la rentabilité. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour l'instant qui sont rentables en agriculture urbaine. Donc voilà, il y a ce problème à résoudre qui est dû à au coût du foncier dans la ville.
Et vous pensez que ça peut avoir des conséquences positives sur la santé ?
Il y a un peu des externalités positives dans le fait que ça pollue moins évidemment de produire en ville et ça dépollue même. Ça permet de faire baisser un peu la température, de capter le CO2. De produire un peu d'oxygène. Et à côté de ça, c'est souvent des produits de bonne qualité. Même si c'est produit hors sol, le hors sol n'a pas une très bonne image. Pourtant, ça fait des produits qui sont de très bonne qualité. Donc oui, ça a des impacts positifs sur la santé. Consommer les fruits et l'agriculture urbaine, en général, c'est des bons produits.
Je suis monsieur De Fleurieux, donc de la société BACSAC, qu'on a créée avec deux autres associés il y a maintenant 10 ans. Donc à la base, moi je suis paysagiste, j'ai un autre de mes associés qui est paysagiste, le troisième est designer. On a regroupé nos connaissances pour pouvoir créer BACSAC qui fait essentiellement donc, des contenants en textile pour les plantes.
Il fallait vous pensez que ça tend à se développer un peu plus, peut-être même dans les campagnes, dans les petits villages?
C'est des choses qui se développent de plus en plus. On travaille, parce que on commercialise les produits donc, dans des magasins. On travaille aussi avec des architectes et des paysagistes donc, qui font des projets pour des particuliers ou même des projets publics. On travaille aussi avec des villes, on travaille avec des écoles, on travaille avec des collectivités. Donc finalement, on peut être aussi bien à la campagne qu'en ville, que partout. Ici, je trouve ça bien de commencer à remettre des potagers dans les écoles, parce que ça permet d'expliquer aux enfants que les tomates ne viennent pas forcément de la boîte de conserve, qu'avant d'être une sauce tomate, c'était un fruit, et ainsi de suite. Et moi, je pense que ça, c'est bien de... Oui, c'est... Et on sent un énorme mouvement là-dessus, parce que nous, par exemple, il y a 2 ans, on a équipé 100 d'écoles à Paris de potagers, donc c'est quand même assez conséquent. Et là, ça va repartir encore cette année. On va rééquiper encore 100 d'écoles à Paris, à Bordeaux aussi. Donc du coup, voilà, il y a un réel mouvement. Et ce qui est bien, c'est que le mouvement, ils ont décidé de le mettre directement dans les écoles, dans les petites sections. Donc ça veut dire que voilà, il y a une génération qui va venir et que, du coup, l'agriculture urbaine, elle va se développer.
Ainsi, on attend une amélioration de la vie citadine avec la végétalisation des villes. Même si la campagne offre une plus grande richesse agricole par son étendue et sa diversité, l'agriculture urbaine va contribuer à une meilleure qualité de l'environnement, une consommation locale, une diffusion de valeurs culturelles nouvelles et de loisirs, une contribution sociale, notamment pour l'insertion.
Et pas besoin d'aller à Paris pour entendre parler d'agriculture urbaine. Des initiatives naissent partout. Récemment a eu lieu l'inauguration de la Cité de l'agriculture dans le 3e arrondissement, ici à Marseille. Ce lieu regroupe un restaurant expérimental, un fonds documentaire et sera le siège de rencontres, de conférences, de toutes sortes d'activités sur le thème de l'agriculture. À cette occasion, nous avons rencontré Marion Schnorff, la présidente de l'association, qui revient sur les origines du projet et les ambitions pour l'avenir.
Au début, ça a été un peu une initiative personnelle, c'est-à-dire que moi, je viens du milieu agricole. Je me suis rendu compte toute mon enfance que c'était compliqué d'être agriculteur. Et à 17-18 ans, quand il a fallu faire des études supérieures, je suis allée vers des thématiques plus politique publique, aménagement du territoire, urbanisme. Donc au début, c'était vraiment une idée perso, mais ça a très rapidement fédéré. Il y a eu beaucoup de monde. qui m'a aidée dans le montage du projet. J'ai été très soutenue et accompagnée pendant, depuis le début.
Et donc aujourd'hui c'est l'inauguration, mais le projet est né dans vos esprits depuis un certain temps. Et donc par quelles étapes vous êtes passée ?
Alors ça a été long, ça a été assez long. Ce soir c'est l'inauguration des locaux de la Cité d'Agriculture, mais en fait on existe quand même depuis 2 ans et demi. On monte de nombreux projets qui ne sont pas forcément que sur les locaux ici. Donc ici, il va y avoir un centre de ressources autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. Mais on monte aussi un marché paysan à la Cité des Arts de la Rue dans le 15e arrondissement de Marseille à partir d'avril. On fait de la recherche de foncier pour les agriculteurs urbains. Donc on a une sorte de poids un peu de sensibilisation des élites politiques, des décideurs, etc. pour les faire avancer. On a une unité de production expérimentale qui est à Tarascon où on produit nos fruits et nos légumes en hydroponie écologique pour tester des nouveaux systèmes de production agricole. Et on bosse aussi sur un troupeau aux portes des villes. Donc en fait, ce soir, on a l'impression que c'est l'inauguration de la Cité de l'Agriculture, mais en fait, en amont et derrière ce lieu-là, il y a quand même beaucoup d'actions. Ça a été compliqué, notamment parce qu'au début, on est resté sur l'utopie. L'utopie, c'était d'avoir 4 hectares de terrain et de pouvoir mettre tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation en un seul et même endroit. Et là, il a fallu chercher du foncier. On a cherché du foncier pendant 1 an et demi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était compliqué, que du coup il fallait convaincre les politiques et que donc les actions se sont déliées à ce moment-là, quoi.
Et donc là, à partir de maintenant, donc là, ça marque un local pour centraliser un peu tout ça. Mais est-ce que vous avez des perspectives pour le futur? Où ça en est? Où est-ce que vous voulez aller?
Le but, c'est vraiment de voir si ça marche déjà. C'est complètement expérimental en termes de modèle économique, de thématique, de management. On essaie de tenter de voir comment ça fonctionne. Entre nous, quand on rigole, on se dit que c'est l'antichambre. C'est-à-dire qu'on teste ici, sur le 37 boulevard national, sur 180 mètres carrés, parce qu'il a fallu prouver justement que le modèle marchait. Donc ici, on a acheté parce qu'on n'arrivait pas à avoir de mise à disposition d'espace. Voilà. En riant, on se dit que c'est le début, c'est le prototype ici. Et qu'après, on ira vers quelque chose de plus gros qui ressemblerait un peu à l'utopie de départ.
Si le projet vous intéresse, vous pouvez consulter leur site citéagri.fr, voire adhérer à l'association ou participer à des événements. Lorsque tu reviendras dans la ville promise, à tes jours pluvieux, tu trouveras à mon soleil la table mise et la joie dans mes yeux. J'étreindrai ta pensée et ta main dans la mienne, je te dirai « ami ». Le vieux port sera-t-il aussi doux que la Seine, à ton cœur embruni ? Nous allons renouer la chaîne lumineuse dont les noms sont si beaux. Nom de tous les amis, les veilles studieuses, l'ivresse sur les mots. Avec Odisio dans la ville d'affaires, au soleil nous serons les poètes parmi les marchands qu'on révère, Bouddha au ventre rond, au ventre cerclé d'or, au ventre pacifique, dont le nombril touchant s'orne tigre royal d'une griffe authentique envoyée d'Orient. Et nous irons prier la Vierge de la Garde qui regarde vers la rue de la Reynarde, triste, les vieux quartiers aux murs poisseux et noirs. Nous verrons le soleil se coucher dans les vergues et quand viendra le soir, nous irons dans un bar infect boire du gin parmi les mâles bruns, les Anglais et les filles, l'équipage au retour de l'océan Indien. Et nous écouterons le chant brutal des races au cœur des grands marins lassés des entreponts. Et puis j'allumerai mes flambeaux aux étoiles et dans la nuit limpide où songent les grands mâts, adossés, minces et blonds au clair de lune pâle, je dirai les plus beaux poèmes qu'on rêva. J'évoquerai les soirs d'alcool et de tristesse où l'amertume du soleil est dans la chair. Je dirai le regret des départs, la paresse et l'invincible goût de jouir qui est dans l'air. Et la couronne des amitiés communiantes fera ce jour si doux et cette nuit si exquise, moins cruelle de se savoir salle d'attente lorsque tu reviendras dans la ville promise.
Nous allons écouter 2 interviews avec Thomas Martin du Jardin Saint-Savonin et Valentin Chavret de Éco-Permaculture qui parlent de l'événement de la Cité de l'Agriculture qui a eu lieu à Marseille au mois de mars.
Et le climat actuel, qu'est-ce que tu en penses étant donné que tu étais au début de cette dynamique en ville avec notamment la création de la Cité de l'Agriculture qui a pour vocation justement de fédérer un peu les acteurs à Marseille dans l'agriculture urbaine, de débloquer du foncier pour finalement leur donner plus de moyens pouvoir, si on peut dire ça comme ça.
Autour de la Cité de l'agriculture, fédérer les acteurs, moi je pense qu'on se fédérait quand même. La grosse difficulté à Marseille, c'est que quand on ne va pas chercher l'info, l'info ne vient pas à soi toute seule.
Pour des gens qui sont à l'extérieur.
Ouais, pour des gens qui sont à l'extérieur, puis même des fois des gens qui pourraient être à l'intérieur et qui se lancent, mais qui sont un petit peu timides et qui n'osent pas se renseigner. Nous, depuis 2013, on avait mis en place avec l'équitable café les semaines taupe, les semaines thématiques en agriculture urbaine et périurbaine, et ça on l'avait fait en interne, en collectif avec différents acteurs. Tant mieux aujourd'hui d'avoir un lieu visible, parce que là finalement la Cité de l'agriculture c'est un lieu visible qui naît, un lieu qui permet de centraliser les acteurs et de nous rendre tous visibles, pourquoi pas. Après, si ça nous permet d'être plus fort, tant mieux. Toujours se méfier de ce retour de flamme par rapport à la question du pognon, de l'argent, de combien on est payé, de où on trouve l'argent, pourquoi on va l'utiliser, est-ce qu'on utilisera cet argent pour faire de la communication, ou est-ce qu'on utilisera cet argent pour aider les acteurs qui ont les techniques, parce qu'au bout d'un moment ces gens qui fédèrent n'ont pas forcément les techniques, et ça on peut le remarquer avec différentes autres associations qui rassemble, et vous avez par exemple le GRS avec Compostage au Jardin, ou le réseau Compost PACA qui était un des premiers réseaux qui permettait de fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillaient autour du compostage, et pour moi voilà, ils sont initiateurs de cette logique permacole ou cette logique de l'agriculture urbaine, le compostage, et ce réseau il existe déjà depuis un petit moment. Par contre en tant que personne en sein du réseau, à des moments ça nous permet d'être visible, ça nous rend légitime, on a des prises de parole, on a des moments où on peut se montrer, on est payé par le réseau, mais au final pour débloquer des projets plus riches en fonds et plus globaux, il n'y a pas forcément d'évolution. Donc moi j'ai toujours cette crainte, mais je pense que c'est quelque chose qui m'appartient, parce que enfin voilà, qui est très personnel. Je suis à la fois très content, et comme je t'ai dit, je faisais peut-être partie des premières personnes que Marion elle a rencontrées à l'époque où elle voulait monter ce projet. Donc aujourd'hui, je la suis encore et je la suivrai le maximum possible. Mais par contre, je suis toujours méfiant par rapport à ces grosses structures qui vont monopoliser de l'argent. Où est-ce qu'on va retrouver cet argent? Comment on va l'utiliser? Et comment on va pouvoir faire naître là aussi des projets plus gros et plus riche pour les techniciens réels et pour la citoyenneté aussi. Et ça c'est pour le moment c'est difficile de dire la suite de la Cité de l'agriculture. On va dire que elle aussi éclot cette année.
Alors que oui, finalement ça fait 2 ans et demi je crois qu'elle existe en tant qu'association, et que là c'est le local qui est inauguré.
Exactement, mais le problème du foncier, le problème de trouver un lieu, au début il y avait un lieu qui était... Enfin voilà, moi j'ai toujours tenu un discours, et je le rappelle aujourd'hui parce que ça me fait plaisir, tenu un discours comme quoi à Marseille plus qu'ailleurs, si une cité de l'agriculture il y avait, il fallait qu'elle soit présente dans le centre-ville de la ville et pas en périphérie. Au final, ces deux ans et demi, Marion est allée dans les quartiers nord, Marion est allée... Enfin voilà, elle a balayé une aire assez grande avec des opportunités assez intéressantes, mais en périphérie de ville. Moi, je la suivais toujours, même si j'étais un peu réticent à ce positionnement à l'extérieur du centre-ville. Même en périphérie, finalement, l'accessibilité au foncier n'est pas aussi claire et aussi simple. Et par les coïncidences, finalement, l'opportunité de pouvoir acheter un lieu sans passer par une centrale d'achat de la ville, ou en restant totalement privé et indépendant. Donc ça, moi, je tire mon chapeau bien bas par rapport à ça, parce que réussir à avoir de l'argent pour acheter un local, c'est énorme. Très content de la voir revenir au centre-ville, parce que moi, ça faisait partie de mes luttes et de mes arguments de dire de ne pas le mettre à l'extérieur. Et au final, maintenant, j'attends plus que voir. Voilà, j'attends de voir.
Oui, on entretient des relations avec les autres acteurs. Maintenant qu'il est clair de qu'est-ce que fait la Cité de l'Agriculture et que nous, on sait ce qu'on fait, il va être beaucoup plus simple de faire des partenariats. Évidemment qu'on imagine avoir des partenariats entre nous et le but étant de créer un maximum de synergie. Mais c'est clair que des rapprochements sont à imaginer. C'est très bien qu'elle existe et je souhaite que ça marche et qu'elle puisse incuber plein d'autres projets. Nous, on est complètement ouverts à faire des partenariats avec toute personne qui signait dans l'agriculture urbaine, qu'il ait déjà un projet développé ou qu'il ait juste envie de le faire, nous on est pour. Après, c'est toujours une histoire de temps. Comme tu disais, la Cité de l'Agriculture a vocation à fédérer, et c'est pour ça que j'ai hâte qu'on ait une structure qui permette de faire l'interface entre tout le monde et que ça paraisse, soit plus simple justement de faire des partenariats. Moi je suis pour tout ça. Après, c'est souvent c'est pris par le temps. Évidemment qu'on se tient au courant des initiatives qui existent. Demain, je visite aussi des jardins partagés qui sont ceux de Fonds Verts parce qu'ils sont là depuis longtemps. Évidemment, il faut travailler en synergie un maximum. Le but, c'est pas d'être chacun dans son petit îlot et c'est exactement le contraire qu'on essaye de développer. Moi, si je pouvais passer mon temps à faire que visiter les jardins et faire de l'échange de connaissances, ce serait parfait. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape assez vite. Pour répondre à la question des partenariats, nous, on est ouvert à tout partenariat. Et d'ailleurs, j'invite toute personne qui est intéressée par l'agriculture urbaine, l'agroécologie, à Marseille, d'aller visiter le site internet du projet et de mettre ces informations et nous on les recontactera pour comprendre qui sont les gens qui ont vraiment envie de s'impliquer et pour voir comment est-ce qu'on peut les intégrer au mieux au projet.
Nous venons d'écouter Thomas Martin et Valentin Charvet, tous deux acteurs à leur échelle sur le territoire marseillais. Écoutons à présent Valentin Charvet qui nous présente l'association Éco-Permaculture, initiatrice de projet.
Éco-permaculture, qui est une structure qui est assez jeune, qui a été créée en juin 2016. Différents axes, un qui est pédagogique, qui est à l'origine du projet. Un autre axe qui est d'insertion. On a aussi développé tout ce qui est un côté un peu bureau d'études pour accompagner des collectivités, des aménageurs sur les questions de comment valoriser le foncier non bâti de façon environnementale. On a aussi voulu faire quelque chose avec les gens qui n'ont pas forcément accès à toute cette communication, notamment les gens qui habitent en cité à Marseille. Le but étant d'initier les gens et les habitants sur de nouvelles pratiques qui leur permettent de récupérer de la souveraineté alimentaire en cultivant tout l'espace disponible, qui est de l'espace public, mais qui doivent se réapproprier et de manière environnementale. Faire du lien intergénérationnel, améliorer leur cadre de vie et potentiellement éduquer les nouvelles générations à de nouvelles pratiques.
L'association Éco-Permaculture réalise en ce moment même un projet qui s'intitule Le Talus, véritable espace de culture, de permaculture et d'échange. Nous espérons avoir piqué votre curiosité et vous invitons à en apprendre plus sur internet www.letalus.com.
En rentrant chez lui un soir, Nasreddin acheta des dattes. Il en mangea tout au long du chemin, dans le noir, et les trouva délicieuses. Arrivé chez lui, il alluma la lampe, ouvrit une datte et constata qu'elle contenait un verre. Il la jeta et en prit une autre. La seconde contenait aussi un verre. Pareil pour la troisième et la quatrième. Alors, Nasreddin éteignit la lumière, recommença à manger ses dattes dans le noir et les trouva toujours délicieuses.
On estime que les insectes font partie des repas traditionnels d'au moins 2 milliards de personnes et que plus de 1900 espèces sont mentionnées comme aliments humains. Mais c'est un mode d'alimentation peu commun en Occident, alors qu'il a beaucoup d'arguments à faire valoir comme un coût de production faible, des bénéfices pour l'environnement ou encore une forte valeur nutritionnelle avec comme exemple le ver de farine, qui a des teneurs en protéines, vitamines et minéraux comparables à celles du poisson ou de la viande. Pour commencer ce sujet, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si vous en avez mangé.
Salut.
Alors, est-ce que vous mangeriez des insectes ?
Absolument. Quand j'ai très faim, dans la forêt, dans la jungle, dans le métro.
C'est déjà fait ? Une tortue ? Non, j'avais mangé des insectes. Mais si je devrais manger des insectes, je pense que je ferais comme dans les émissions à la télé, là, Koh-Lanta. Ce qui se mange pas. Je sais pas comment je pourrais formuler ça, mais ce qui se mange pas. Tout ce qui est asticots, haricots, escargots, je le mangerais normal.
Non, mais j'en ai goûté une fois pour voir ce que c'était. Parce que j'étais en Asie, au Laos, et là-bas, et en Thaïlande, et là-bas, ils mangent pas mal d'insectes frits. trouve qu'on a assez de choses à manger et que c'est pas la peine de... En plus, ces pauvres petites bêtes, laissons-les vivre.
Salut. Certaines personnes ont pris l'initiative d'inviter ces petites bêtes dans nos assiettes. Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas, patron du bar à tapas, le Bad Bar, au cours Julien, qui propose des insectes à sa carte.
Déjà, on ne peut pas avoir tous les insectes qu'on voudrait avoir parce qu'ils ne sont pas tous commercialisables. La législation en France est encore un peu compliquée. On a le droit d'avoir des insectes qui sont endémiques en fait, au pays. Nous, la production que nous recevons des insectes vient d'une ferme au Luxembourg, où il n'y a pas la même législation. Les Pays-Bas, c'est pareil, il n'y a pas la même législation. Donc on peut se fournir chez eux. Ils nous envoient les insectes qui sont déshydratés, tous les insectes, et c'est à nous après de refaire un travail pour pouvoir avoir les insectes consommables.
Nous venons d'entendre Nicolas répondant à la question « Pouvez-vous servir n'importe quel insecte et d'où proviennent-ils ?» Nous lui avons ensuite posé une question concernant le goût des insectes, ainsi que sur ses préférences. Pour finir, nous lui avons demandé si ce mode d'alimentation pourrait être une pratique alimentaire plus commune en France.
Oui, effectivement, il y a des insectes qui sont bien meilleurs que d'autres. Certains sont même pas bons du tout. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est à découvrir. Après, c'est des saveurs qui sont pas connues, donc on peut pas vraiment associer le goût de l'insecte à quelque chose qu'on connaît nous dans notre nourriture, quoi. Et pour moi et pour beaucoup de clients, c'est le ver à soie. Parce que ça, alors la texture, ça ressemble un peu à des chipsters, donc c'est plutôt agréable en bouche. Et en fait, c'est vrai que on peut l'associer à un goût un peu connu d'un fromage, quoi. Donc de l'emmental ou du gruyère. Et c'est vrai que c'est une saveur qui est plutôt agréable. Et effectivement, comme vous avez dit, les grillons sont quelque chose qui sont aussi assez appréciés et qui ont une saveur, ouais, un peu de grillé en fait. Donc on l'associe au poulet grillé, effectivement. Alors, je pense pas que ça puisse être possible dans un pays comme le nôtre, parce que tout simplement, c'est pas dans nos mœurs, c'est dans nos mentalités de pouvoir s'alimenter comme ça. Donc, c'est vrai qu'on dit que c'est la nourriture, la source de nourriture du futur, quoi, qu'on sera tous obligés de passer par là, mais je pense pas que ça rentre vraiment dans nos mentalités de pouvoir s'alimenter de ça. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, on est encore dans des mentalités et dans un mode de vie qui se prête pas à ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit phénomène de monde, comme il y a quelques années en arrière, quand les premiers restaurants ont ouvert pour faire des sushis, il y a 15 ans en arrière, tout le monde, c'était voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on commence à faire ça et qu'on entend autour de nous que plusieurs personnes veulent le faire. Donc c'est un phénomène de mode. On va dans certaines grandes surfaces, maintenant on trouve des chips au grillon, des trucs comme ça. C'est encore un peu un jeu de découverte pour les gens, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça puisse rentrer dans une alimentation comme les pays d'Amérique du Sud ou au Mexique, les enfants, leur bonbon, c'est de manger des punaises vivantes. Je vois mal mon fils de 14 ans manger un cône de punaises vivantes en sortant de l'école. Salut.
On retrouve maintenant Thomas Martin nous témoigner son point de vue sur l'agriculture urbaine à Marseille. Un petit état des lieux subjectif et vu du centre-ville.
En 2012, quand je suis sorti de l'école, il y avait très peu de choses qui étaient faites sur l'espace public ou avec les associations ou autour de ça. Depuis 2013, on avait mis en place avec l'Équitable Café les semaines taupes, les semaines thématiques en agriculture urbaine et périurbaine. Et ça, on l'avait fait en interne, en collectif, avec différents acteurs. Du fait d'avoir le jardin, de rencontrer beaucoup de partenaires, beaucoup d'associations, beaucoup d'habitants, d'être sollicité, je me sens à la base de ce mouvement parce que finalement, ce mouvement, moi je l'ai vu naître. Aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs sur l'agriculture urbaine à Marseille. Les niches sont petites, l'argent dégagé est très faible. Les modèles économiques, ils sont loin d'être stables ou ils sont loin d'être étudiés comme propices. Donc je me bats pour essayer de débloquer des fonds, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, très peu de choses ont abouti. Même en périphérie, finalement, l'accessibilité au foncier n'est pas aussi claire et aussi simple. Moi, la ville de Marseille, depuis 2014, je les ai sollicités, je leur ai expliqué mon projet, elles savent très bien qui je suis, comment je travaille. Fin 2016, Madame Cordier m'a sollicité pour un terrain près du parc Puget. Et puis finalement, je l'ai visité, j'ai vu les techniciens et des choses ont été écrites, ont été discutées, sont en cours de modification. Mais aujourd'hui, on est en 2018 et la chose, elle n'a toujours pas avancé pour pouvoir lancer un premier jardin laboratoire expérimental. Au moins... la question administrative ou la question les officiels et les officieux. Enfin, moi, je suis resté vraiment sous forme d'acteur privé et d'association. Je ne vis pas de l'agriculture urbaine. C'est quelque chose de très difficile pour avoir de l'argent et débloquer des fonds. Sur des petits espaces en milieu urbain avec des ingrédients qui sont complètement différents, moi, je pense qu'il y a tout à réinventer. Il y a de nouveaux protocoles à écrire et de nouveaux gestes à faire émerger. On est encore au début de tout ça.
Et comment se voit-il dans le futur ? Les projections de Thomas Martin, architecte paysagiste, jardinier, amiculteur et colibri marseillais concernant le futur de l'agriculture urbaine à Marseille.
Moi, dans le futur, par rapport à l'agriculture urbaine, tant que j'aurai de l'énergie et tant que je serai sur Marseille, je compte bien continuer à faire les choses telles que je les ai commencées, de pas changer ma veste autour de mon utilisation de l'argent ou de mes utilisations des ressources ou de mes rapports avec les gens ou avec la matière, parce que finalement, c'est pas noble de travailler avec les déchets. Souvent, vous êtes considéré comme un éboueur, même si vous avez un bac plus 7. Mon avenir autour de ça, je pense que ça sera toujours dans le combat et dans cet engagement. Je suis un colibri, donc le colibri, il tourne pas autour du pot, il fait la problématique, elle est là, l'urgence, elle est là, tout le monde est au courant, personne ne veut faire, moi je le fais. Et puis mon engagement au niveau des associations, elle est multiple par rapport à différentes étiquettes que je peux avoir. Donc au final, je veux pas être un boulet ou un poids supplémentaire aux associations et aux privés marseillais. Pour moi, les municipalités ont un rôle prépondérant dans l'exemplarité. C'est elles qui doivent montrer l'exemple et c'est pas le contraire. Et à Marseille, ça fait 10 ans que c'est le contraire, que c'est plutôt les associations qui montrent l'exemple face à un pouvoir qui fait tout à l'envers. Donc c'est encore de la lutte et ça sera encore de la lutte. Après, j'essaye toujours d'élargir mes réseaux parce que les réseaux, ils sont loin d'être figés, c'est toujours en mouvement. Donc je rencontre toujours des nouvelles personnes, des opportunités. Avec les amiculteurs, on lance des choses auprès des écoles, auprès de copropriétés. Donc on arrive à lancer des choses. Moi, après, tout ce que j'essaye de faire et tout l'argent que ça peut générer, ça part aux associations. Et j'ai hâte de voir la nouvelle municipalité, parce que là aussi, on est en 2018, 2019, 2020, va y avoir les nouvelles élections. C'était toujours le même et c'est toujours dérangeant de voir... des gens parlaient des générations futures en sachant que ces gens font partie d'une ancienne génération qui a fait ses preuves. Et quand on voit et quand on fait le bilan de ce qui a été fait, finalement, c'est pas très réjouissant. J'ai hâte de voir un peu de sang neuf là-dedans. Peut-être que je me présenterai, je sais pas.
Enfin, quelques conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer, comme lui, dans l'agriculture urbaine. Écoutons ses sages paroles.
Tout seul, on ne fait pas grand-chose. À plusieurs, on va plus loin et on va plus vite. Pas faire ça seul. La solitude par rapport à ce travail qui est vachement prenant et très incertain. De jamais se lancer seul, d'être toujours en équipe et de pas hésiter. Après, c'est toujours bien si on a la possibilité d'avoir des revenus annexes ou des choses qui permettent de faire tourner sa vie, parce que c'est très compliqué de vivre comme moi je le fais. Donc pour le coup, de pas être seul et de pouvoir avoir un petit peu de sécurité à côté, financière. Voilà, moi ça sera un peu les deux
et de travailler avec son cœur. Enfin, ça aussi, je pense que c'est la troisième chose. Ça serait vraiment de travailler avec son cœur, parce qu'aujourd'hui, la difficulté de l'ouvrage est telle que si on n'a pas le cœur à l'ouvrage et qu'on le fait pas avec amour, je pense que très vite, ces simples cailloux deviennent des impressionnantes montagnes, et qu'après, on se sent vraiment tout petit et en mesure de rien faire. Pour le coup, le jardin est un lieu de résistance, et ça, encore plus à Marseille, encore plus dans le centre-ville, et encore plus quand on part avec pas de terre. Résistance.
Résister, oui, mais avec le cœur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour reprendre les paroles de Thomas Martin, tout seul, on fait pas grand-chose. À plusieurs, on va plus loin et on va plus vite.
Il était une fois un mandarin qui possédait un chat. Et l'aimait énormément. Il en était si fier, il le trouvait si extraordinaire qu'il décida de le nommer Ciel. Mon chat est si précieux et unique que le nom chat ne lui convient pas. Il n'y a que le ciel qui soit à sa mesure, puisque rien n'est comparable au ciel. Or, un jour, un ami lui dit « Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il y a une chose plus puissante que le ciel, ce sont les nuages, puisque les nuages peuvent envahir le ciel. » « Vous avez raison, répondit le mandarin, et je vous remercie de cette remarque pleine de sens. Je vais désormais nommer mon chat Nuage. » Quelque temps après, un autre mandarin vint prendre le thé à la maison. « Comment ? S'écria-t-il. Vous appelez Nuage ce magnifique animal ? Mais il existe une chose bien plus forte que les nuages. C'est le vent qui les chasse. » Dès lors, son maître nomma Vent le bel animal. Une semaine ne s'était pas écoulée que le maire de la ville, invité chez le mandarin, aperçut le précieux animal. « Vent ? » dit-il. « C'est un nom bien indigne. Le vent trouve facilement son maître, puisqu'un mur peut l'arrêter. » « En effet, » répondit le propriétaire du chat. « Désormais, mon animal s'appellera Mur. » Un peu plus tard, un étudiant qui travaillait chez le mandarin fit remarquer respectueusement au seigneur qu'une souris était capable de vaincre le mur. Cher maître, si je puis me permettre, il me semble bien qu'une souris peut venir à bout de n'importe quel mur. Elle le mine en perçant des trous, aussi petite soit-elle. Elle est capable de grandes choses, puisqu'elle l'affaiblit et le détruit petit à petit. C'est vrai, reconnut le mandarin. Je vais donc appeler mon magnifique chat Souris. Vint alors à passer le petit garçon du jardinier. Souris ! S'écria-t-il en éclatant de rire. Mais il y a quelqu'un de bien plus puissant que la souris. C'est le chat qui l'attrape et la mange. Le mandarin comprit alors sa vanité. Désormais, il nomma l'animal tout simplement chat.
Cette émission radio a été dédiée à notre alimentation, notamment à comment on produit nos aliments dans nos villes aujourd'hui. Les projets qui sont mis en place à Marseille et ailleurs en France, ainsi que les nouvelles tendances dans nos assiettes. Verdissement des lieux de vie, convivialité et lien social, recyclage des déchets organiques, production d'aliments, l'agriculture urbaine permet aujourd'hui de réinventer notre rapport à l'alimentation, à notre environnement, notre rapport avec les autres, mais aussi de réinventer nos villes.